BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi.
Vous qui nous rejoignez sur BFM TV, on vote dimanche, dois-je vous le rappeler. Pendant ce temps, le RN continue sa course en tête dans les sondages. Marine Le Pen anticipe une victoire le 7 juillet et elle nous prépare à de sérieuses manifestations si son parti obtient la majorité. Écoutez-la.
Si, pour notre plus grand malheur, l'extrême gauche gagnait ses élections législatives, il n'y aurait pas une manifestation dans les rues. Si nous gagnons les élections législatives, alors oui, probablement, il y aura des manifestations dans les rues. C'est donc l'extrême gauche qui est responsable de cela.
Nos invités sont donc restés avec nous et nous sommes rejoints à distance par Charles Prats, qui est candidat LR-RN dans la 6e circonscription de Haute-Savoie. Il nous rejoint. Vous et vos amis, Charles Prats, vous préparez des violences éventuelles de l'ultra-gauche?
Ah, écoutez, dans ma Haute-Savoie, je ne pense pas.
Non.
En revanche, en région parisienne ou dans les grands centres urbains, je ne vais pas vous dire non, puisque je les connais. je les ai pratiqués dans les universités quand j'étais plus jeune, et je les ai pratiqués en tant que magistrat, ces gens-là. Donc effectivement, il y a un certain nombre de personnes qui vont refuser le vote démocratique, mais c'est une manière, voilà, les gauchistes, l'extrême gauche, ce sont des fascistes de gauche, ils refusent la démocratie, et un certain nombre d'entre eux vont peut-être effectivement vouloir provoquer des troubles, voire même le grand soir, la révolution. Ça, il reste toujours dans cette optique quatrième internationale.
Sarah Knafaud, le président de la République, nous dit lui-même que nous sommes au bord de la guerre civile en cas de victoire des extrêmes et donc du RN. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous imaginez un chaos le 8 juillet dans le pays, vous?
Le chaos, on l'a déjà. En fait, on l'a tous les jours. Ce que je trouve particulièrement gênant de la part d'Emmanuel Macron, c'est de nous dire que ce serait de la faute de ce qu'il appelle l'extrême droite que le chaos arriverait. Le chaos, c'est quand une jeune fille de 12 ans se fait violer en bande organisée parce qu'elle est juive. Le chaos, c'est quand on a la tête d'un professeur qui roule par terre parce qu'un Tchétchène a décidé de le décapiter. Ça, le chaos. Le chaos, c'est tous les jours. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, admette, enfin, ce risque, alors qu'en réalité, le risque est déjà survenu. Mais il admet qu'il y a une poudrière en France, et s'il y a une poudrière, effectivement, c'est pas du tout de la faute de la droite, encore moins de ce qu'il appelle l'extrême droite qui n'est jamais arrivée au pouvoir en France, mais de la sienne. De la sienne, de celle de M. François Hollande qui nous fait un retour en politique comme si on avait besoin de lui, de celle de tous ses prédécesseurs qui ont créé cette poudrière.
Amandine Atalaya, la majorité continue en tout cas d'en appeler à la responsabilité des Français. La petite musique aujourd'hui, c'est de dire que le bon déroulement des Jeux Olympiques sera perturbé. En fait, si le RN ou la gauche arrive au pouvoir, c'est...
Oui, mais c'est assez paradoxal parce qu'on a toujours entendu jusque-là, il y a deux paradoxes. D'abord, il répétait, Gérald Darmanin lui-même, que celui qui lui succéderait n'aurait qu'à arriver dans ses chaussons parce que tout était préparé et qu'il n'y avait aucun risque derrière que ça se passe mal. Et finalement, aujourd'hui, ils sont nombreux à dire qu'à cause de l'incompétence du Rassemblement National, à cause des risques d'émeutes, à cause du fait qu'ils aient critiqué Aya Nakamura et autres, les JO pourraient mal se passer. Donc on comprend plus très bien si oui ou non tout était sur les rails et tout était prêt ou pas comme il fallait. Puis le deuxième paradoxe, c'est qu'Emmanuel Macron avait le choix, c'est-à-dire qu'il aurait pu dissoudre à l'automne et préserver les Jeux Olympiques et faire en sorte que, oui, par exemple, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra ne soit pas éventuellement obligée de partir le 8 juillet. Idem pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a déjà devancé ça en disant que s'il y avait un mauvais résultat de la majorité présidentielle, il quitterait le gouvernement aussitôt. Donc c'est Emmanuel Macron qui aussi a mis en danger, en quelque sorte, le bon fonctionnement de ces Jeux Olympiques, parce qu'encore une fois, il était possible de laisser passer l'été et de faire cette dissolution à l'automne.
Plusieurs témoignages ces derniers jours évoquent un racisme décomplexé depuis les européennes sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, Pierre-Yves Bournazel. L'avez-vous perçu et est-ce que ça vous inquiète?
On sent monter depuis malheureusement plusieurs années une montée de la haine de l'autre. Antisémitisme, racisme, haine de l'autre en général. Et c'est vrai que la montée en puissance des extrêmes et de l'extrême droite aujourd'hui rend un certain nombre de personnes décomplexées. Et c'est extrêmement dangereux. Je pense qu'un extrême en nourrit un autre. Et je pense à ces hommes et ces femmes qui nous regardent et qui se disent « j'ai pas envie que mon pays tombe dans les mains de l'extrême droite » ou « je n'ai pas envie que mon pays tombe dans une autre forme d'extrême ».
J'ai envie. Apparemment, l'extrême centre fatigue aujourd'hui.
Non, mais peut-être. Mais je ne suis pas sûr d'ailleurs que la dissolution ait été le bon choix. Mais nous sommes des responsables politiques. Donc, quand on est responsable politique, on fait face aux réalités. Le président a dissous l'Assemblée nationale. Il y a une élection. Il faut qu'il y ait un débat. Et notre rôle à nous, c'est de dire quelle majorité on voudrait pour le pays. Moi, je vous dis très clairement et avec beaucoup de franchise, je pense que le bloc central, la majorité sortante, n'aura pas la majorité demain. Mais une nouvelle majorité inédite peut se construire sur le modèle allemand, sur le modèle de grande démocratie européenne, où des partis de gouvernement restent ce qu'ils sont, mais ensemble, sur quelques grands sujets, peuvent se mettre d'accord.
C'était possible sous la 4e République, ça ne l'est
non,
pas sous la 5e.
Non, ça peut être possible sous la 5e, parce que si le RN, et on va tout faire pour que le RN n'ait pas la majorité absolue, eh bien, on fera tout pour que le Parlement ne soit pas impuissanté. On fera tout pour qu'il y ait une coalition, pour qu'il y ait un espoir pour le pays. Parce que vous voulez un pays qui ne soit pas gouverné pendant un an, parce que le président ne peut pas redissoudre pendant un an. Vous voulez le chaos pour le pays, alors que nous avons la guerre sur le sol européen, alors que nous avons une priorité pour l'éducation, alors que nous avons la transformation écologique qui nous attend. Moi, je pense qu'il faut préférer toujours son pays et les Français à son parti. Et moi, je pense que le 8 juillet, chacun sera dans un nouvel état d'esprit au service de la France, des écologistes, des socialistes, des républicains qui ont fait le choix d'être clairs sur leur ligne contre le RN et des forces centrales.
Nous pouvons c'est votre rêve d'une troisième voie.
C'est un petit trou de souris, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est le seul espoir pour tous les modérés qui sont majoritaires dans le pays.
Guillaume Tabar.
Oui, et je pense que agiter l'épouvantail d'une guerre civile comme l'a fait Emmanuel Macron, c'est périlleux pour lui-même.
Vous avez bien compris que là, c'est Mme Le Pen qui suggère qu'il va y avoir des manifestations, oui, mais... qu'il suggère qu'il peut y avoir des violences,
oui, mais enfin,
quel que soit le résultat.
Oui, mais
non, mais elle désigne l'extrême gauche. Sous-entendu, si nous arrivons au pouvoir,
oui, mais il y a deux
les nazis de gauche seront dans la rue.
Il y a Marine Le Pen qui met en garde contre l'attitude d'éventuels groupes de gauche contre sa victoire. Emmanuel Macron qui prévient que les programmes de ses partis conduiraient à la guerre civile. Je trouve que c'est périlleux pour deux raisons. La première, c'est que là, on fête ces jours-ci l'anniversaire des émeutes de banlieue de 2023, qui ont été assez dures quand même, où des édifices de la République ont été saccagés, où des élus de la République ont été pris à partie. Mmh. Et à ma connaissance, la violence terrible de cet été 2023, elle n'était pas due au fait que ou M. Mélenchon ou Mme Le Pen étaient au pouvoir. Donc quand on dit « attention, la guerre, c'est les autres », c'est toujours périlleux. Et puis surtout, Emmanuel Macron, il est président de la République. Il sera sans doute, il sera peut-être dans une semaine en situation de cohabitation avec un camp qui n'aura pas voulu, que ce soit le Rassemblement national ou que ce soit le Nouveau Front Populaire. Quand on est président de la République et que l'on sent des risques de débordement, oui, est-ce que notre rôle, c'est de dire « attention, ces partis sont dangereux » ou de mettre en garde ceux qui ne respecteraient pas le verdict du suffrage universel? Car si le Nouveau Front Populaire gagne ou si le Rassemblement national gagne, dans tous les cas de figure, ce sera parce que le suffrage universel leur a permis d'être majoritaire.
Donc,
ce dont le président devrait s'inquiéter, c'est non pas de la victoire de tel ou tel. Après, on a le droit de critiquer des programmes, de les juger dangereux, c'est normal, c'est la vie politique. Mais s'il y a un danger pour la paix civile, guerre civile, c'est grave. Une guerre, en général, ça fait des morts quand même. Il faut quand même préciser ça. Donc s'il y a un vrai danger, le garant de la paix civile, c'est le président. Il doit plutôt mettre en garde ceux qui ne respecteraient pas le verdict des urnes.
Est-ce que vous faites partie de ceux à gauche, Aurélie Trouvé, qui se demandent très simplement si l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir va libérer une forme de violence raciste dans le pays? C'est un procès d'intention qui est fait en ce moment même.
Mais c'est déjà le cas, parce que je peux vous dire qu'il y a du racisme qui est exacerbé. Et je vais vous dire, il y a aussi des gens, beaucoup de gens, des millions de gens, en fait, qui ont peur dans ce pays que l'extrême droite arrive au pouvoir. Des millions de gens qui n'ont pas, par exemple, de couleur de peau qui est blanche. Et voilà, et qui se disent que, eh bien, avec l'extrême droite au pouvoir, ils vont être encore plus stigmatisés et que ça va ouvrir une chasse aux étrangers. Tout simplement, il y a des gens qui veulent déjà partir du pays alors qu'ils travaillent là depuis 30 ans, 40 ans, qu'ils ont des enfants ici, qu'ils consomment, qu'ils versent des impôts. Voilà ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire, vous nous faites des leçons sur la gauche, mais comment osez-vous regarder votre échec lamentable de 7 ans de présidence Macron? On nous avait dit, oui, ça va permettre de combattre l'extrême droite. L'extrême droite n'a jamais été aussi haut dans ce pays. Donc vous feriez mieux d'abord de regarder votre échec lamentable et d'en tirer des leçons. Mais, parce que vraiment, en plus d'avoir détruit la vie des gens, puisqu'on a des millions de gens en plus en 7 ans qui ont faim, qui ne peuvent pas se loger et qui ne peuvent pas vivre dignement. Mais finis parce que vous m'avez dit aussi que j'aurais honte de François Hollande, de François Ruffin, etc. Je le dis, tout le monde est bienvenu sur un projet qui est très clair, qui fait 150 mesures, et nous sommes les seuls à avoir un programme aussi fort. Mais justement, moi j'ai honte d'une seule chose. J'ai honte d'une seule chose, c'est d'une France qui maltraite ses habitants. Et oui, à la fois la Macronie a maltraité et maltraite ses habitants, et à la fois l'extrême droite maltraite ses habitants. Nous, nous voulons l'unité nationale.
Vous venez d'interpeller Pierre-Yves Bournazel, je vous donne la parole et je reviens vers
vous. Défendre le Hamas, c'est l'unité nationale, madame?
Oui. On n'a jamais défendu le Hamas, donc arrêtez vos mensonges.
C'est un mouvement terroriste?
Arrêtez vos mensonges. Arrêtez vos mensonges.
Est-ce que c'est un mouvement terroriste?
Nous avons été très clairs.
C'est un mouvement terroriste?
Le Hamas.
Vous trouvez ça clair?
Le Hamas perpétue des massacres terroristes.
C'est un mouvement terroriste.
Et nous condamnons, pour ces crimes de guerre depuis le début. Par contre, on peut aussi vous demander des choses à vous, qui par exemple défendez quelqu'un
du terrorisme.
Vous défendez quelqu'un qui est par exemple Raphaël Arnaud.
Je vous dis tout de suite, on ne vous comprend plus.
Condamné pour injure raciste.
Oui ou non? Raphaël Arnaud qui est fiché S.
Éric Zemmour.
Avoir Raphaël Arnaud fiché S.
Ou pas?
Excusez-moi. Je vous le dis tout de suite, on ne vous entend plus et on ne va pas rentrer là-dedans si vous le voulez bien.
Qu'est-ce qui fait peur?
Non. Pardonnez-moi. Simplement, voilà, cette partie de débat, je ne sais pas que je vous la censure. Elle était tout simplement inaudible. Alors, je vous pose la question à vous aussi. Pensez-vous, ou on en rajoute pour entretenir la peur, que l'arrivée de Mme Le Pen au pouvoir peut déclencher des violences dans le pays et libérer par ailleurs une parole raciste dans le pays?
Absolument pas. Je pense que ce qu'on oublie, alors on cite des millions de gens qui se sentent stigmatisés, on cite des millions de gens qui veulent faire barrage au RN, et en fait on oublie les millions de gens chez qui ça suscite un espoir de se dire ça va enfin changer. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette dissolution? C'est pas parce que vous étiez très fort et c'est pas parce que vous, madame, vous étiez très forte. C'était parce que le score de Jordan Bardella a été tellement fort qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée. C'est parce que c'est ça qui suscite l'espoir aujourd'hui chez des millions de Français. Vous voulez désincarner cet espoir. Et alors j'en parle de façon encore plus désintéressée justement pour mon pays si vous voulez. De manière totalement désintéressée. Aujourd'hui, ce qui suscite l'espoir, c'est surtout pas vous. Je vous entends, vous voulez tous les deux uniquement faire barrage. C'est votre seul projet. Faire barrage à quoi? Aux Français. Aux Français qui se sont exprimés. Votre unique projet, c'est d'allier des gens parfois contraires, qui se détestent, qui se méprisent, de les allier uniquement pour faire barrage à la volonté des Français. Alors écoutez un tout petit peu ce que disent ces millions de gens. Vous parlez de projet, bah justement Charles Prats, on le soutient avec Reconquête, et je lui adresse d'ailleurs mon amitié, mais Charles Prats qui veut lutter contre la fraude sociale typiquement, c'est exactement ce que veulent les Français. Regardez tout ce qu'on propose. Tout ce qu'on propose, c'est exactement ce que veulent les Français.
Charles Prats,
c'est ça qui suscite de l'espoir.
Alors je sais que ces tensions n'existent pas dans votre beau département de la Haute-Savoie, mais est-ce que vous vous inquiétez de l'état du pays et du climat qu'on vit ensemble et des divisions profondes qui pourraient aboutir en effet à des violences?
Alors, je vais vous faire un point historique, Yves Calvi, parce qu'avec vous, sur le plateau, je suis le plus vieux. Et ça fait 40 ans que je fais de la politique. Et je salue Sarah, je lui renvoie son salut. Vous savez, les élections, elles vont se tenir le 30 juin 2024. Et vous savez, quelle est la dernière fois qu'il y a eu des élections législatives le 30 juin? C'était le 30 juin 1968. Et le 30 juin 1968, les Français se sont dressés à l'appel du général de Gaulle et par leur bulletin de vote ont mis fin à la chienlit des gauchistes. Eh bien, moi, j'appelle tous les Français ce soir à faire la même chose le 30 juin. On ne veut pas de la chienlit dans le pays. On va utiliser notre bulletin de vote pour les candidats de l'Union nationale pour signifier à ces gens-là qu'ils sont minoritaires et que la France ne leur appartient pas. Et oui, la France est de retour. Et c'est pour ça que moi, je suis candidat et que je suis persuadé que, effectivement, l'extrême gauche veut mettre le souk dans le pays, si vous me passez l'expression. Eh bien, il faut aller avec le bulletin de vote le 30 juin, leur dire non, stop, et faire exactement comme le 30 juin 68, où les Français se sont majoritairement levés. Rappelez-vous du score des députés gaullistes après cette élection-là. Se sont majoritairement levés pour dire non au fascisme de gauche et pour sauver la République. Eh bien, le 30 juin 2024, il faut faire pareil pour dire non à la gauche, non au macronisme et sauver la France.
Guillaume Tabar, est-ce que vous percevez, je dirais, une inquiétude des Français sur les éventuels résultats de ces élections législatives et ce qui va se passer en fait le 8 juillet dans le pays?
Ce qui est sûr, c'est qu'on voit quand même une campagne qui est avant tout, qui se fait en contre. On entend d'un côté vouloir faire obstacle, faire barrage au Rassemblement national, faire barrage au Front populaire, le Rassemblement national qui veut chasser Emmanuel Macron. On a une somme de rejets. Mais je pense que là où le logiciel de cette campagne est un petit peu décalé par rapport à l'état d'esprit aujourd'hui des Français, c'est que pendant effectivement longtemps, le Rassemblement national était le parti et ses dirigeants étaient ceux qui attiraient le plus la crainte, le rejet. Et le moins l'adhésion en positif. Or, aujourd'hui, quand on voit les études, on se rend compte que Jordan Bardella ou Marine Le Pen ont le plus d'adhésion en positif. C'est-à-dire pas uniquement pour faire barrage aux autres ou par rejet d'un système sortant, etc., mais par adhésion, bien plus que Emmanuel Macron ou le Front populaire. Et inversement, c'est chez eux aussi que le taux de rejet est le moindre. Donc c'est pour ça que je pense que tout le monde aurait gagné, de mon point de vue, mais ça, après, chacun organise sa campagne comme il le voulait, à essayer de faire campagne de manière positive sur son projet. Or là, on a tous dit,
bah, mais il faut une campagne claire, on ne fait pas semblant de voilà. Le président a décidé du timing des choses et il n'y avait pas le temps d'aller dans le fond, vous le savez, enfin, d'une certaine façon. On est en ce moment à la.
Oui,
à la
c'est le problème
C'est tout ce qui est éruptif qui est au cœur de cette campagne.
Honnêtement, c'est le problème d'une dissolution qui n'a pas de vraie motivation. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron n'a pas réussi à. Il a bossé, il s'est reprendre à plusieurs fois pour essayer de justifier sa dissolution. Il ne trouve pas de raison valable. Et quand, il faut le dire clairement, que quelque chose est mal emmanché. Ben, on peut multiplier les explications, les interventions, les justifications, ça ne prend pas.
Vous êtes sûr de ne pas regretter la campagne commune avec le RN, vous ?
Bien sûr que je regrette. On leur a tendu la main, ils ont refusé cette main tendue, bien sûr que je regrette. Ce qui ne nous empêche pas de participer avec tous les candidats de Reconquête, les 330 candidats de Reconquête, parce qu'on a fait le choix de ne pas investir de candidats.
Pardonnez-moi, du coup, à quoi sert le vote Zemmour dans ce cas-là, si vous
À dire la vérité. C'est très simple, comme depuis 2 ans. Je pense que le parti Reconquête, c'est un parti qui n'a que 2 ans, donc c'est un parti qui vient de naître, qui est en train de grandir. Et je pense que l'existence de Reconquête dans le débat public, et vous serez d'accord autour de cette table parce que je vous ai beaucoup entendu le dire, a permis d'élargir la fenêtre d'Overton. Alors certains le déplorent, d'autres s'en réjouissent. Je fais partie de ceux qui s'en réjouissent. Je pense que la candidature d'Éric Zemmour en 2022 et la suite de tout ce qu'a entrepris Reconquête a permis de propulser nos idées, de leur donner une grande visibilité. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui compte pour nous, c'est de continuer d'avoir ce courage de la vérité.
Sauf que là, ce sont aux électeurs du RN que vous prenez des voix par définition.
Justement, non. On a fait le choix de mettre 330 candidats et pas 577.
Le RN n'est pas le vote utile.
Précisément pour ne pas empêcher.
Le RN n'est pas le vote utile pour les gens qui sont engagés à la droite de la droite.
Justement, donc vous voyez qu'on ne leur prend pas de voix, précisément. On a mis des candidats partout où on pouvait exister sans empêcher. C'est-à-dire dans toutes les circonscriptions où on n'allait pas faire gagner l'extrême-gauche parce que c'est notre enjeu de combattre l'extrême-gauche et de prendre notre part dans cette bataille.
Bon, bah, je vais faire des frustrés puisqu'on va parler impôts maintenant et je sais que ça vous intéresse, on compare les propositions des trois blocs.